Vous écoutez toujours Radio Éthique, voici le reportage de Stéphanie Reynaud.
C'est au cœur d'un véritable écrin de lumière niché au flanc d'une falaise face à la mer que les jardins des Antipodes offrent généreusement leurs plus beaux fruits. À Garavant, sur les hauteurs de Menton, à quelques mètres de la frontière italienne, plantes maraîchères et arbres fruitiers rivalisent de charme et d'exotisme pour le plaisir des palais les plus délicats. Ici, le climat est si doux qu'en plein mois de décembre, c'est en t-shirt qu'il faut gravir les 30 restanques pour rencontrer Alexandra Boyle, créatrice de jardins et fondatrice de l'association Les Jardins des Antipodes, un nom bien mystérieux.
C'est parce que je suis d'origine néo-zélandaise et quand je suis arrivée, j'ai tout de suite fait des plantations d'arbres néo-zélandais et j'ai fait des mini-forêts par région en Nouvelle-Zélande parce que ça me passionne et ça je montre aux gens, les botaniques qui sont intéressés, etc.
Une retraite très active pour Alexandra qui s'occupe d'un immense terrain décomposé en trois parties bien différentes.
Il y a le jardin botanique qui est composé pour la plupart de plantes néo-zélandaises. Il y a aussi des plantes africaines et australiennes. Et après, il y a le verger exotique et français, méditerranéen aussi. On fait pousser beaucoup de grenadiers, des choses comme ça, des manguiers, des papayers, beaucoup de choses. On essaie tout, il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas, évidemment. Mais les manguiers et les papayers, on peut avoir des fruits.
C'est bien ça pour l'empreinte carbone. On n'a pas besoin de faire venir des fruits exotiques de très loin.
C'est locaux. C'est des produits locaux. Et puis, on a des bananes aussi. À part ça, il y a le potager qui est, à vrai dire, la plus grande partie maintenant et qui est pour la vente directe au restaurant, au chef, aux AMAP et aux ruches qui dit oui.
Est-ce qu'un particulier, peut venir faire ses courses?
Oui, on fait quelques paniers pour les particuliers, avec la seule condition qu'il faudrait qu'ils viennent les chercher.
Bien que courageuse, Alexandra ne peut pas tout faire toute seule. Elle est aidée de 3 employés, dont Magali Bouvier, la jardinière, qui se plaît à travailler ici.
Ben c'est très agréable, en fait, donc surtout quand on a la même passion des plantes, de recherche de plantes à la fois comestibles et non comestibles, différentes, oubliées, rares. C'est ça qui est très agréable.
Et inscrire toutes ces cultures dans un mode bio, dans un mode respectueux de la nature.
Exactement. Dans le respect de la nature, d'une recherche de biodiversité, de respect des animaux aussi, du jardin, qu'ils soient dans le sol ou à l'extérieur.
Quelle était votre formation à la base ?
À la base, j'ai une formation littéraire. Puis ensuite, j'ai passé un CAP, voilà. Et puis j'ai été formée par un grand maraîcher qui s'appelle Jean-Luc Danérol, qui est dans le Vaucluse.
Alors est-ce qu'ici vous avez appris des choses particulières ?
Bien sûr, parce que Alexandra est toujours à la recherche de nouvelles techniques de maraîchage. On cherche toujours des choses différentes. Là, on va essayer les fraises en gouttière. On essaye d'optimiser un maximum la surface du jardin, c'est vrai, parce que bon, pour le potager, c'est un potager assez intime. On a des petites cultures vraiment très pointues, très recherchées pour que les chefs soient satisfaits et trouvent des produits qu'ils ne trouvent pas ailleurs. Et puis d'autre part, recherche aussi de variétés rares. On apprend toujours en fait parce que à la fois on peut avoir oublié des variétés qu'on mangeait au Moyen-Âge, en Europe, en France, et puis des variétés très exotiques. On peut se considérer un petit peu comme des chercheuses de saveurs, Alexandra et moi. On a le même point de vue, nous sommes très gourmandes, donc c'est pour ça qu'on s'entend bien avec les chefs.
Vous pratiquez la rotation des cultures dans le potager ?
Bien sûr, rotation de culture, co-compagnonnage de plantes. En général, on associe, on met beaucoup de fleurs. De toute façon, les chefs en sont friands, il y a toutes les fleurs sauvages. On désherbe le moins possible, dès qu'on peut laisser, on laisse un coin sauvage. Oui, rotation des cultures, bien sûr, c'est indispensable pour que la terre puisse se reposer. On fait aussi beaucoup d'engrais verts, dès que c'est possible, aussi pour les fleurs. Et puis, nous avons des ruches, donc on pense aussi aux abeilles, évidemment, qui sont en danger en ce moment.
Tout ça organisé sur 30 niveaux de restanques, c'est sportif quand même.
Ouais, c'est sportif, surtout quand il faut faire les récoltes de tomates, etc., qu'il faut monter, descendre. Oui, c'est assez sportif, mais en même temps, c'est bien, ça nous muscle les fesses, pour moi qui suis une fille.
Est-ce que la terre est naturellement bonne ici ?
Oui, c'est une bonne terre. Elle est un petit peu caillouteuse, donc quelquefois, quand on a besoin de cultures, comme des cultures de racines qui ne sont pas trop adaptées, on monte des sortes de buttes avec du compost, etc., pour faire une terre un petit peu plus légère, avec moins de cailloux. Donc on essaye de s'adapter un maximum au terrain. Mais sinon, la terre est très très bonne, avec des cailloux, ce qui la rend assez légère, donc c'est assez agréable de la travailler. Ouais.
On va faire un tour dans le potager ?
Avec grand plaisir.
Et c'est parti pour une balade maraîchère et bucolique au milieu des citrons, des mandarines, des avocats, des bananes. Décidément, le microclimat de Menton n'est pas une légende.
C'est un jardin extraordinaire.
Alors qu'est-ce qu'on a en ce moment dans le potager ?
Alors en ce moment, nous avons des avocats. Là, on est sous un bel avocatier.
Il est superbe.
Il est superbe. C'est principalement ce que nous livrons en hiver. Avocats, mandarines, nous avons un tout petit peu de clémentines, des citrons de Menton. Voilà, ce sont nos livraisons principales de l'hiver.
Alors, on a tous essayé de faire germer un noyau d'avocat chez soi. On a tous plus ou moins réussi. Quel est le secret pour obtenir un arbre comme celui-là, qui, je ne sais pas, fait 5-6 mètres d'envergure et est couvert d'avocats ?
Celui-là est là depuis à peu près 80 ans. Donc, pour avoir ça, il faut attendre.
C'est la patience, le secret ?
Si on achète un arbre greffé et on a deux types d'avocatiers, parce qu'il y a deux types de floraisons différentes, on peut avoir des fruits.
Donc, la patience. Oui. Est-ce qu'il y a autre chose, le climat particulier ici ?
Oui, des gels, c'est pas bien pour les avocatiers. Plus que 2 degrés de gel, c'est probablement fini. De toute façon, ici, le sol n'a jamais le temps de refroidir. Même quand il y a des flocons de neige, ça résiste pas. Quand ça touche le sol, ça part tout de suite. Donc, on a eu des petits gels, mais ça n'a pas de conséquences normalement.
Allez, continuons la visite.
Voilà nos bananiers.
Ah, une culture de bananes.
Donc, pour l'instant, on a un régime dans une autre plantation de bananiers, mais pour l'instant, c'est fini pour la saison.
Ça donne assez rapidement ?
Oui, si les conditions sont bonnes, eau et fumier, c'est tout ce qu'il faut. Un peu de chaleur, évidemment. Ça donne très rapidement.
Ce sont des grandes bananes ou des petites ?
Non, elles sont assez petites. Elles sont bonnes quand même.
Elles sont très très bonnes, oui. Elle dit Alexandra qui n'est pas fan de bananes.
C'est la seule chose que je ne mange pas. Mais puisque les jardiniers les mangent.
Donc là, il y a ce qu'on a couvert en fait là pour la saison. Essentiellement, ce sont les petits manguiers.
Ils ont déjà donné les manguiers ?
Ou c'est oui, j'ai un qui a donné là-haut. Mais maintenant, on coupe les fleurs en pleurant. Parce qu'il faut faire des grands manguiers au lieu de rester petits. Donc l'énergie qui ferait des fruits.
Et ils ont combien, une quinzaine d'années maintenant ?
Celui-là doit avoir 8 ans.
Oui. Ah ouais.
Oui. Mais il a donné 2 fois des fruits et 3 fois des fleurs.
Ouais. Il ne donne pas forcément des fruits à chaque fois qu'il fait des fleurs.
Non mais parce qu'on les coupe.
Dans mon jardin, il y a la poste, il y a mes copains, la caissière du Félix Potin. Dans mon jardin, il y a mon chien, il y a sa niche, il y a son vin. Dans mon jardin, y'a les julots, des panoyaux, y'a des usines, y'a des poubelles, y'a les escrocs de la rue de Courcelles. Dans mon jardin, y'a des touristes, y'a des martiens, des coccinelles et des cafards, des porcs et des cages à lapins. Moi je voudrais bien, un beau matin, qu'il y ait une fleur dans mon jardin.
C'est le froid qui colore les mandarines.
Oui, c'est pas le soleil, c'est un petit coup de froid.
Qu'il y ait une fleur dans mon jardin.
Vous pouvez goûter ?
Volontiers, on va les goûter.
Ils ont beaucoup de saveur en début de saison parce que dans le pot, il a vraiment huile.
Là, pour faire des zestes, c'est impeccable. Mm-hmm. Ça, les restaurateurs vous en prennent des mandarines ?
Oui. Mm-hmm. Oui, un petit peu tout, en fait, tout ce qu'ils peuvent trouver. Mmh. C'est vrai que gustativement, bon, ils trouvent leur compte, hein, gustativement. Donc après, ça dépend de leur recette, c'est toujours pareil. Des fleurs, des fruits, des légumes, des feuilles.
Vous savez qu'elles sont très bonnes, ces mandarines.
Hein. Voilà, un autre papayer.
Ah, un papayer. Mmh.
On peut aller voir les petites papayes en bas.
Et ça, qu'est-ce que c'est ?
Un braquiquiton.
Un braquiquiton ?
Un braquiquiton.
Il est très beau.
Donc là, c'est plutôt néo-zélandais, donc on va rester dans le... Mmh. Dans le potager. Côté comestible. Il vient d'arracher les arachides, les cacahuètes.
Ah, vous aviez planté des cacahuètes.
Oui, on a fait un petit essai, ça a très bien marché. Mais c'est plutôt pour les aromatiques, comme le pimpernel, la sarriette et les capucines.
Oui, c'est important de trouver la place idéale pour chacun des fruits, des légumes, des fleurs.
Et ici, on a beaucoup de soleil. Et si c'est quelque chose qui a besoin d'ombre, c'est plus compliqué. Ouais.
Les fèves.
Allez.
Oui, on parlait des engrais verts, ça en fait partie.
Bien sûr, ouais, tout ce qui est légumineuse, c'est très très bon pour la terre. Donc on plante une bonne quantité de légumineuses. Là, on voulait des fèves pour Noël, mais on va en avoir. Hein. Il y a déjà quelques gousses. On y a intercalé un petit peu de bourrache, des pieds de bourrache, toujours pour faire des associations fleurs-légumes. Et puis, bon, on a des blettes sauvages aussi qui poussent naturellement. En général, on essaye de plutôt laisser faire. Hein. On ne veut pas trop contrarier la nature et on laisse faire comme ça. Donc après les fèves, on mettra plutôt une culture gourmande, telle tomate ou culture ou autre culture d'été de légumes-fruits.
Alors les fèves et la bourrache s'aiment bien ?
Ça se marie bien et puis les abeilles adorent la bourrache pour butiner. Donc nous, ça nous satisfait parce qu'après, elles passent dans les fleurs de fèves.
Là, par exemple, vous allez pouvoir récolter quelle quantité de fèves ?
4-5 kilos à la fois. Je dis ça parce que pour les restaurants, c'est des petites cosses.
Ils aiment les petites cosses.
Oui, donc ils aiment les fèves qui sont comme un angle de...
D'accord, donc vous êtes obligé de les récolter avant qu'elles ne deviennent trop importantes.
Oui, oui. Et donc on peut avoir 100 cosses. Pour 1 kilo.
Et oui, c'est la cuisine minimaliste. Oui.
Exactement, beaucoup de petits légumes, de mini-légumes. Donc c'est pour ça que on aime aussi travailler avec les particuliers parce que au final, on récolte peut-être pas tout d'un coup, pas tous les petits légumes d'un seul coup. Donc on a des légumes qui arrivent de taille standard. Donc à ce moment-là, oui, nous, ça nous fait plaisir aussi de travailler, de faire plaisir aux particuliers qui ont envie de manger local.
Et cet arbre, qu'est-ce que c'est ?
Ça, c'est une plante de Nouvelle-Zélande. C'est un myoporum.
Myoporum ?
Oui.
On apprend des choses avec vous, c'est ça qui est formidable. Alors, vous avez un petit bassin de rétention d'eau, c'est ça ?
Oh, on en a plus d'un. Il y en a combien ? 1, 2, 3, 4.
Il y a un double
4.
Et deux comme ça.
D'accord.
Et en tout, on peut stocker une centaine de mètres cubes d'eau qui vient du canal.
Et en fait, le canal est relié directement. On enlève des pierres. Il y en a une là-bas et la pierre laisse passer l'eau. Et en fait, on récupère l'eau là-bas directement dans le bassin. Donc ça, à tour de rôle pour que tout le monde, tout le long du canal, ait de l'eau.
Depuis des centaines d'années.
Et l'eau est bonne ?
Et l'eau est bonne. Et c'est un peu calcaire. Donc on fait décanter un peu et on prend l'eau de
la surface.
Oui, de la surface.
D'accord. Est-ce que ces seuls bassins de rétention arrivent à vous suffire en autonomie ou non ? Vous êtes obligé quand même
d'arroser ? Non, on prend l'eau de pluie aussi. Et aussi, j'ai fait un forage pour le cas où. Et donc, on a un forage tout en haut.
Pas d'arrosage qui viendrait de l'eau de ville ?
Non, on aurait droit à l'eau agricole, mais on n'a pas besoin.
Parfaite autonomie.
Oui, il faut le chercher.
Là, on arrive aux endroits des radis, tout ce qui est navet, un beau manguier.
Waouh, il est magnifique ce manguier. Vous lui avez fait une belle petite maison pour l'hiver.
Ouais,
Oui, il aime bien parce que ça ne touche pas et va pousser pendant l'hiver.
Ah, alors là, on arrive dans un coin qui ressemble à un potager assez classique.
Oui, donc culture sur butte, parce que là, c'est l'endroit où on fait plus de cultures de jeunes pousses, comme les amarantes que vous voyez, qu'on laisse naturellement pousser, monter en graines, pour pouvoir après, ça repousse tout seul. C'est vraiment une culture qui est facile. On a mis dedans une terre assez pauvre en cailloux, du compost pour la rendre plus légère. Et puis donc, c'est aussi pour tout ce qui est légumes racines, les carottes, les radis, navets, les carottes dont vous voyez les petits semis derrière.
Tout frais, à peine sorti.
À peine sorti, ouais, tout mignon, pour faire des très serrés, pour faire des petites carottes pour les chefs, avec beaucoup de couleurs. Aussi, toujours, des variétés anciennes, très très colorées.
Et alors par là-bas, il n'y a rien, là, c'est en jachère ?
Ben, par là-bas, en fait, on continue, il y a d'autres bacs, en fait. Hein.
Attention
à la tête, oui, devant.
Oui.
Oui, on va voir les lasagnes, comme
Allez.
Ça, on parle des lasagnes. On essaye de développer une culture sans retourner la terre. Parce que comme on laisse le jardin très sauvage, on a quand même besoin d'une terre qui soit un petit peu aérée. Donc au fur et à mesure, on met au point, on passe des terrasses tout en lasagne, c'est-à-dire superposition de différentes matières, de broyat, de compost, de tout ce qui peut être recyclé en fait dans le jardin, et puis aussi du fumier au-dessus de la paille pour avoir moins de mauvaises herbes. Une superposition de couches comme en cuisine. Et puis, on va laisser un petit peu se décomposer tout ça. Et après, on trouve une biodiversité dans la terre. La terre devient vraiment très friable, etc. Plus besoin de retourner la terre.
Et vous avez prévu d'y planter quoi sur ces lasagnes ?
Là, cette année, en fait, le plan du jardin n'est pas définitif. Mais en fait, on peut y planter un petit peu tout. Hein, des concombres, des tomates également. Elles sont très enrichies. C'est vrai que toutes les plantes aiment les lasagnes. Hein, sauf, bon, les très petites plantes, c'est un petit peu plus délicat. Parce que bon, il y a beaucoup de paille, etc. Donc c'est un petit peu plus délicat. Mais sinon, on peut altercaler aussi différentes plantes. Pour l'instant, le plan n'est pas définitif pour la saison. Donc ça, c'est une vieille lasagne et c'est pour vous montrer les associations de plantes. Donc là, on va faire toute une culture de différents ails. Donc il va y avoir de l'ail violet, de l'ail chinois, etc. qu'on peut consommer différemment. Donc associé à des fruitiers, vous avez un pêcher qui est là. Voilà, associé à des fruitiers parce que les deux s'entendent très très bien.
Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières. Des photos de bord de mer dans mon jardin d'hiver. Je voudrais de la lumière comme en Nouvelle-Angleterre. Je veux changer d'atmosphère dans mon jardin d'hiver.
Comment est-ce que vous luttez contre les maladies et les parasites ?
Alors toujours les plantes, quand on peut, on utilise les plantes, donc du purin, évidemment, purin de consoude, on a une plantation de consoude. Nous n'avons pas d'ortie, donc on utilise essentiellement...
Un peu trop chaud là, hein.
Ouais, et puis le terrain, il n'y a pas trop d'ortie sur le terrain, donc on utilise ce qu'on a sous la main. En fait, donc consoude, des décoctions d'ail aussi, on peut utiliser de l'absinthe également. Et puis sinon, ben, des fois, il y a des pestes, il n'y a rien à faire. Là, on a eu une invasion de punaises cet été, qui s'attaquait à la fois aux feuilles de tout ce qui était radis, etc. Également aux fruits de tout ce qui était tomates. Donc ça les déformait, ça devenait invendable et bien moins bon en fait. Et ben, il n'y avait pas de solution, donc on a tout ramassé à la main. Voilà, donc on les a ramassées, les punaises, les unes après les autres à la main. C'était rigolo, mais au final, ça n'a pas si mal marché que ça.
Hein. Vous en avez fait quoi après ?
Ben après, en fait, on les mettait dans de l'alcool pour qu'elles se noient. En fait, c'est pas très sympa hein, pour elles. Mais bon, après, c'est vrai que ouais, il y a des limites quand même. Il y a des limites. On veut bien accepter quelques pucerons, etc. Bon, mais des fois, ben, on ne sait pas pourquoi il y a des invasions comme ça. Là, c'est la première fois que ça nous faisait ça. Il faut un petit peu réagir quand même, même si on n'est pas pour tuer les animaux du jardin quand même. Oh, mais qu'est-ce que c'est ? Donc, tomate en arbre. Ça a un goût entre la tomate et le fruit exotique.
C'est très, un arbre bon. Qui s'appelle comment ?
Siphomandra, si je dis pas de bêtises.
Siphomandra ?
Oui.
J'avais jamais vu ça.
Ouais, ouais.
C'est un arbre persistant ?
Oui, tout à fait, c'est vivace, ouais, ouais, ça reste là. Bon, les feuilles vont plus ou moins tomber selon le froid qu'il fait. Mais sinon, vous avez vu, celui-là, il est quand même assez gros.
Et il donne assez tard ? Ou tout au long de l'année ? Parce que là,
non,
je vois qu'il y a des
non,
fruits,
non, c'est en ce moment, ça y est. Là, on commence à pouvoir les récolter et à les manger.
Okay.
Il a besoin de beaucoup de chaleur. Les petites papayes, vous les voyez
ah,
là ?
Ah oui ! Oui, toutes petites.
Toutes petites, donc très très rares, ça on n'en trouve pas non plus. Et tous ces fruits exotiques, en fait, ils arrivent à maturité vraiment en tout début d'hiver. Donc c'est pour ça qu'on réussit à les avoir, c'est parce qu'on a vraiment une saison très très longue en fait. Hein. Si il faisait froid avant, on ne les aurait pas à maturité.
Voilà, on a oublié de vous parler des goyaves.
Les goyaves
ah. On va les déguster en bas parce que j'ai les mains. Allez, on descend alors.
C'est ainsi que s'achève notre promenade dans les jardins des Antipodes de Menton, entre les papayes, les mangues, les avocats, les bananes et autres siphomandras, en espérant que cette balade à la fois bio, locale, de saison et exotique vous aura donné des idées pour mieux consommer ou peut-être même pour jardiner.
C'était un reportage réalisé par Stéphanie Reynaud.
Il suffit pour ça d'un feu d'imagination.